off the car.
Unfettered love that flirts with death.
Let's do that.
Plus de 70 longs métrages et 68, voilà, c'était un peu la folie, mais bon, ça prouve bien qu'il y a énormément de films qui concernent le sujet LGBT.
Un jour fille, de Clotilde Monod.
Un jour fille, qui sortira au mois de mai 2024, l'histoire d'une qui est tombée complètement dans l'oubli, de la première personne intersexe qui, au XVIIIe siècle, avait réussi à se marier. Mais qui malheureusement a été dénoncé juste par jalousie et qui a été donc en procès, enfermé. Un avocat a réussi à reconsidérer son procès et à la faire gagner, pas entièrement, parce que malheureusement, à l'époque, donc les mentalités étaient encore très bloquées. Au moins, elle a pu sortir de prison et vivre normalement, même si elle était condamnée à vivre la fin de sa vie habillée en femme. C'était juste un jugement de deux docteurs qui avaient présumé que son sexe féminin était prédominant parce qu'elle avait de la poitrine. Juste pour ça, c'est une histoire vraie qui a été complètement oubliée. On a pu retrouver donc toutes ces traces donc par rapport à cet avocat qui a refait son jugement.
Cette histoire, ça rappelle un petit peu Orlando, non ?
Orlando, c'était quand même fictionnel. Et tandis que là, c'est quand même une histoire vraie où c'est vrai qu'au cours de sa vie, on l'a fait changer de genre parce qu'elle était envoyée donc chez les bonnes sœurs, comme beaucoup se faisaient à l'époque, et que là, les bonnes sœurs, au bout d'un moment, se disent ben, « c'est plus possible, vous ne pouvez pas rentrer au couvent, on vous renvoie chez vos parents ». Et donc, avec son confesseur, qui était le prêtre du village où elle habitait, lui dit « bon, puisque tu as des attirances pour les femmes et que ton comportement est ainsi, donc tu es un garçon, tu ne peux pas être autre chose, on s'est trompé à la naissance, donc on s'excuse, et donc à partir d'aujourd'hui, tu dois t'habiller et vivre en tant que garçon ». Ce qu'elle s'exécute avec le vouloir de ses parents, de son père, et comme bien sûr dans le village, elle se fait maltraiter, elle quitte son village et se rend à Lyon. Dans ce voyage sur Lyon, elle rencontre une troupe de théâtre qui est très ouverte, où elle apprend des textes qui lui font comprendre qu'en fin de compte, elle n'est pas seule et qu'en fin de compte, tant qu'humain, on est autant féminin que masculin dans notre corps. Chez d'autres, ça se voit donc plus par des signes extérieurs ou pas, mais qu'elle a totalement le droit de vivre, donc jusqu'à son arrivée à Lyon, où là, il devient un tailleur très reconnu, très réputé, jusqu'au jour où elle retombe sur donc, une personne qu'elle avait connue dans son tout début d'exil, et par jalousie, elle le dénonce à tout le monde, et que malheureusement, donc, il est mis en prison, et au premier jugement, elle n'avait plus le droit donc, de rencontrer sa femme, de s'habiller, d'avoir une vie, de rester complètement en prison et d'être fouettée, ainsi de suite.
Alors, il y a un film qui sort le 13 décembre, qui se passe dans le milieu de l'armée. C'est Sergent-Major Eismeyer, de David Wagner. Film allemand, donc je voulais savoir ce que tu en avais pensé, puisque ça se passe dans le milieu militaire.
Ça paraît très dur au départ, on se demande mais quel sujet, où on va. Un sergent très dur, et jusqu'au jour où il arrive un accident, et on le traite par rapport à cet accident, que ce sergent instructeur est une personne homophobe. Et là, dans ce coup, on voit que ce sergent si dur s'écroule, et on voit que son autre côté, qu'en fin de compte, bah, il aime les garçons, surtout les jeunes hommes, et qui va tout faire pour aider donc cette personne qui a eu cet accident, et vont se mettre en couple. C'est une très belle histoire à voir. L'année prochaine, c'est le grand anniversaire, le 30 ans. Les 30 ans que le festival Chéri Chéri a été créé. Donc il y aura encore bien plus d'événements et de films, je suppose. C'est à peine fini qu'il recommence déjà pour l'année prochaine, les 30 ans du festival, avec plein de surprises encore.
Tu vas organiser un festival sur Montpellier ?
Oui, donc j'organise un festival sur la ville de Montpellier, créé depuis 2019. Cette année, ça se passe au mois de mars. La sélection n'est pas définitive. On va retrouver quelques films qui sont passés à festival de Chéri Chéri et d'autres exclusivités. sur une semaine, on va voir le maximum. On va faire, même si toute l'année j'organise des séances uniques ou des avant-premières avec certains films, en essayant de faire venir des équipes de films et autres, s'appuyant sur d'autres festivals comme Amnesty International ou autres, les petits festivals organisés sur Montpellier. On s'associe pour créer des événements donc autour de la communauté LGBT.
Donc ça sera quelle date?
Donc cette année, ce sera du 18 au 24 mars.
Donc du 18 au 24 mars, donc ça veut dire que la programmation, elle sera prête fin février?
Tout à fait.
Donc tu nous tiendras au courant?
Pas de problème. Je reviendrai à Radio Libertaire, bien sûr.
Merci. La semaine prochaine, nous parlerons de livres et de cinéma, et notamment de Land of the Dead de Romero qui ressort en DVD, et puis de 3 livres parus chez Nada, Je n'ai rien à perdre que mes chaînes, de Molly Steimer, Femmes, unissons-nous de Teresa Claramunt, et Ni Dieu, ni patron, ni mari, par le journal anarchiste La Voce de la Morère. Un monde, et également un autre bouquin, Un monde complètement surréel, de Noam Chomsky, paru chez Lux. Très très bonne semaine, et évidemment, eh bien, tenez bon.
Radio Libertaire 89,4 MHz, dessous de scène, magazine de créatures radiophoniques, bon, je me souviens, sera relativement court aujourd'hui, basé juste sur les prénoms de personnes que j'ai pu rencontrer, que vous avez pu rencontrer, et qui sont peut-être sous terre maintenant. Je me souviens de Sarah avec un H et de Sarah sans H. Je me souviens de Myriam et de Mariem. Je me souviens de Joseph, Youssouf, Youssef. Je me souviens de David, Daoud. Je me souviens de Manal, Manel, Emmanuel. Je me souviens de Rachel et Rachid. Je me souviens de Samuel, Sami, Samir. Je me souviens de Zacharie, Zakia. De Selim, Shlomo. De Younes, Jonas. De Yaël et Waël. De Slimane, Suleiman et Salomon. De Saïd et Sadia, de Salem et Shalom, d'Ephraïm et de Brahim, d'Ibrahim et d'Abraham, de Yacoub et Jacob, d'Iliès et d'Eli, d'Ahmed, Haroun, Aaron. Tous les corps se ressemblent.
Marché de Jaffa, se promenait Rachel, à quelques pas de là, Rachid faisait comme elle. Leurs yeux se sont croisés, leur cœur a chaviré, un amour est né, ce jour-là au marché de Jaffa, Rachel était si belle, à quelques pas de là, Rachid ne voyait qu'elle, il avait tant prié, elle avait tant rêvé, que Dieu l'a donné. Cet amour en danger. Dieu, y es-tu? Dieu, c'est là-bas, ou coiffés de kippa, ils chantent pour Allah ou bien pour Jéhovah. Ils arrivent masqués ou sur leurs chars dressés, pitoyables soldats d'un absurde combat. Ils repartent drapés de sphères ensanglantées, fous de Dieu, fous d'Allah ou bien de Jéhovah. Dieu. Sur la place du marché, leurs yeux se sont fermés, leur cœur s'est arrêté. Plus de septième ciel pour Rachid et Rachel, pour la fille d'Israël, pour l'enfant d'Ismaël.
Le soleil s'est voilé, le sang s'est écoulé, les larmes l'ont emporté. En ton nom, ils ont tué, puis ils s'en sont allés. Et ils étaient très pressés, c'était l'heure de prier.
Eh oui, je m'étais fait cette réflexion cette semaine que le prénom Ibrahim et le prénom Abraham, c'était la même racine, Souleyman et Salomon, Rachid, Rachel, c'est peut-être la même effectivement, Younes, Jonas, etc., ce que je vous ai dit en ouverture de ce magazine. Et je suis retombé sur cette chanson Rachel et Rachid de Martine Sarry, et je me suis dit que j'allais la passer en ouverture, d'autant que ça évoquerait quelque chose effectivement à Laurent qui est présent dans ce studio, puisque la musique est d'Angelo Zurzullo. Radio Liberté, Dessous de scène, magazine de créatures radiophoniques. En guise de créature, donc je vous l'ai dit, il y a Laurent autour de cette table. J'aperçois Michel, j'aperçois Sophie. Nous attendons Ariel et Elsa. Nous avons le petit cadeau d'Evelyne et Jean-Marie. Et nous avons en plus des invités. Donc je vous laisse faire votre tour de table de présentation de ce que vous avez chacun apporté.
Oui, bonjour, c'est Michel, j'ai apporté... l'almanach des quatre saisons de Alexandre Vialat. Ah
oui. Laurent, eh bien, j'ai apporté dans ma manche deux invités avec une séquence autour du Vietnam sous divers aspects. Et on y revient tout de suite après que Sophie se soit présentée.
Bonjour, du coup, moi je vais continuer sur le thème de nos mères que j'ai entamé samedi dernier avec quelques bouquins, quelques extraits.
Alors, aujourd'hui, eh bien, c'est un peu la suite d'une série, puisqu'on a eu l'Espagne la semaine dernière, on a eu Madagascar il y a quelques semaines également, donc on continue le tour du monde à la fois en poésie, en musique et en éléments de sociologie et un peu de politique également. On a plusieurs thèmes à aborder. Deux invités. Alors déjà, on commence par les dames. C'est la tradition hexagonale avec Jeanne Varette, qui va nous raconter de manière très concise son parcours, une partie de son parcours. Je vais lui poser les questions, et puis Jeanne nous a apporté des belles surprises qu'on va écouter également. Et notre invité, notre deuxième invité, c'est Olivier Roy, et c'est déjà Olivier qui était prévu. J'ai demandé à Jeanne de venir parce qu'elle a aussi beaucoup de choses à dire. Il y a deux démarche très, très complémentaire, avec pour Olivier une très belle actualité. Il va nous en parler. J'ai tous les thèmes sous les yeux. On va commencer par Olivier, parce que c'est une démarche, disons, très particulière, avec la réalisation d'un film qui aura pour titre « Vietnam, mon amour ». Alors, déjà, avant qu'on commence, un petit coucou à des personnes que je connais qui m'ont été très très salutaires. On commence par Mifong, que nous saluons, on va en parler un petit peu tout à l'heure. Et puis Monsieur Quinn, Vun Gok, peut-être l'accent, Jeanne, l'accent Quinn, comment ça se prononce en vietnamien, Monsieur Quinn?
Monsieur Vu Quinn.
Ah voilà. Voilà, ça, oui. C'était mieux quand même. Que nous saluons, voilà, parce que je les connais. Et Mifong, bon, pour une association dont Jeanne va aussi nous parler. Alors, Vietnam, mon amour, la réalisation d'un film par Olivier Roy. Alors, Olivier se présente, mais il a déjà fait un très très bon texte de présentation. Artiste français, acteur de théâtre, peintre, écrivain, porte le projet de cette œuvre artistique. Sa connexion avec ce pays vient d'un grand-père vietnamien mort pendant la guerre d'Indochine. Voilà, là, on en reste à trois lignes. Et bien sûr, Olivier Roy. Alors, j'appelle son nom parce que les internautes vont aller voyager un peu et vont le trouver. Donc, c'est R-O-Y. Olivier Roy, vous irez vous renseigner après l'émission. Et on va commencer donc par Olivier, parce qu'il a vraiment là un programme qui est en cours de réalisation. Et ensuite, on parlera du programme de Jeanne, qui a un très, très, très beau projet, également un projet éditorial. Alors, Olivier Roy, la oui. parole, c'est à toi.
Merci.
Et donc, un projet qui est sur le feu, oui. mais à petit feu.
Absolument. Eh bien, je reviens d'un long voyage au Vietnam, où j'étais invité par l'association Racines et Traditions Vietnam, présidée par Mifong. Ça a été un temps tout à fait fantastique. Et j'étais un peu sur les traces d'un grand-père mort durant la guerre d'Indochine, et qui avait les deux courants, c'est-à-dire le courant français et puis une mère vietnamienne. Et il fait partie de ces premières personnes décédées pour le compte de l'armée française au Vietnam. Il est décédé dans le nord du Vietnam en 1950, et il est un peu pour nous, pour la famille, une figure tutélaire, un peu un mystère, puisqu'on a tous donc cette origine, et en même temps un pays inconnu en réalité. Et donc, c'était pour moi une sorte de retour aux sources. Et avec Mifong, on a décidé que ce retour aux sources se ferait par le biais de la poésie, d'une part, d'une vraie... porter un regard nouveau, neuf, sur ce pays que je ne connais pas, et puis compléter la chose par un film dont le titre est « Vietnam, mon amour ». Parce qu'en fait, pour la famille, ce Vietnam-là est un Vietnam rêvé, et il l'est aussi pour les Vietnamiens eux-mêmes. Quand on va au Vietnam, il y a une chose qui interroge toute personne, c'est qu'au fond, très très vite, le Vietnam lui-même devient le lieu de la discussion pour les familles vietnamiennes elles-mêmes. C'est-à-dire que le Vietnam est une question qui reste ouverte pour tous les Vietnamiens. C'est une question pleine d'espoir, pleine de souffrance, du fait de ces guerres, souvent interminables, contre l'occupation, il faut le dire, hein. On a occupé le Vietnam des décennies. On y a fait une vraie guerre. Et cette guerre s'est enchaînée par la guerre du Vietnam avec toute la filmographie américaine qu'on connaît. Voilà. Et là-bas, on rencontre encore des personnes qui sont meurtries de ça, quoi, dans leur chair. Elles ont vécu le napalm, les bombes, l'agent orange. Et malgré tout cela, il y a là-bas une vraie poésie chez les gens, une vraie courtoisie. Au Vietnam, on fait des rencontres pleines d'élégance et de délicatesse, je dirais. Et c'est vraiment un pays qui est très inspirant pour écrire des choses brèves et simples sur la nature humaine. Voilà.
Alors, ton parcours, Olivier, oui. Tu es allé au Vietnam récemment.
Oui, j'en reviens.
Oui, là, en fait, et oui. C'était ton premier voyage.
Oui, absolument.
Oui, donc, il y a tout un, on peut dire, un éventail de sensations que tu as. Alors, est-ce que tu as commencer le film ou justement je crois que tu es en recherche de financement pour ce
oui.
documentaire, c'est
je
bien
suis,
ça
je suis en recherche de financement. C'est un film qui va se présenter un peu sous la forme d'un road movie où on va suivre un personnage et qui va aller de place en place poser la même question: quel est le Vietnam de tes rêves? Et l'autre question, ça sera pour toi, c'est quoi la paix? Et ces deux mêmes questions amèneront des réponses très différentes, parce qu'en fait, en fonction de si vous êtes une mère de famille ou si vous êtes un professeur dans votre classe, les réponses sont différentes et vos nécessités aussi, en fait. Voilà.
Alors, ce grand-père vietnamien, tu n'as pas précisé si le côté comment, côté
Alors, c'est du côté de mon père.
Oui.
Et mon père a très peu connu son père lui-même, puisqu'il était pupille de la nation à 10 ans. Et que quand son père est mort au combat, eh bien, lui n'était encore qu'un enfant, en fait.
Alors, est-ce qu'il y a de la famille, là, en ce moment?
Non. Au Vietnam, il n'y a.
On
a...
Pour toi?
Non, on n'a rien retrouvé. On a retrouvé simplement une arrière-grand-mère. Il n'y a que des traces, en fait. Parce qu'à l'époque, l'état civil n'était pas du tout tenu de la même manière. C'était, il y avait l'administration française, mais malgré tout, c'était beaucoup plus flou, en fait. Et on a eu beaucoup de mal à retrouver des ancêtres là-bas.
Donc, à ce moment de ta vie, donc, ce sont les retrouvailles avec oui. La terre de 50% de tes ancêtres.
C'est ça, exactement.
Voilà, c'est ce qu'on appelle un moment de partage.
C'est ça.
Alors Jeanne, également, Jeanne Varrette, que j'ai croisée il y a quelques années, je l'ai vue sur une scène chanter mieux que bien du jazz, avec un accent anglais assez extraordinaire. Moi, j'ai été assez épaté. On a sympathisé, on est resté en contact, et puis, au fil du temps, eh bien Jeanne, elle aussi développe un projet éditorial. Ce sera plutôt du sonore, c'est pas encore un documentaire, mais déjà Jeanne est en train d'enregistrer ce qui sera certainement un album ou un EP avec un certain répertoire. Alors Jeanne, donc, tu es un croisement également entre la Moselle, je crois, ou la Lorraine.
Oui, mon père est de Lorrain, français de la Lorraine, et ma mère est vietnamienne de Hue. Et bah, moi, je suis née au Laos, à Savannakhet. Et ma famille, nous sommes arrivés en France en 1963, dans le village de Noyant-d'Allier. C'est un village où les rapatriés indochinois sont accueillis, là. Et c'est là aussi que j'ai passé avec tous les Noyantais, enfin notre enfance, là.
Oui, tu m'as souvent raconté de très belles histoires de ce village où il y a des familles entières là-bas. Hein. C'est comme un petit Vietnam,
voilà,
presque
ça.
Au cœur de la France.
Oui,
et
oui.
Il y a, je crois, un esprit d'entraide, un esprit de solidarité.
Oui, c'est ça.
Il y a toujours le rapport à ce qu'on appelle les racines, hein, mm-hmm. puisque racines, c'est bien le c'est nom ça. De l'association. On va c'est répéter ça. Le nom de l'association,
racine
d'ailleurs.
Racines et traditions Vietnam.
Voilà. Donc ce mot racine a une signification très 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 forte, et eh bien il faut ne pas se couper de ses racines. Il faut pas non plus que les racines empêchent de marcher, il faut pas se prendre les pieds dedans, c'est un peu ce que je dis souvent et à quelques personnes dans quelques conversations. Mais c'est vrai que bon, je crois que c'est Caetano Veloso qui disait, c'est une des phrases que je préfère, « J'aime mes racines, mais je préfère le fruit. » Et vous êtes tous les deux en train, justement, de créer un fruit, justement, à travers, pour Olivier Roy, un documentaire qui est en projet, qui est en construction, pour Olivier, et pour Jeanne, eh bien, un travail discographique autour de...
Autour des comptines.
Oui.
Des comptines, enfin, par rapport aux comptines, il y aurait des comptines des quelques chants vietnamiens, laotiens, anglais, français, enfin tout ce qui a bercé mon enfance en fait.
Alors on va écouter une comptine, elle est sur la platine. Nicolas me fait signe que c'est en train de bouillir à petit feu, mais maintenant on va agrandir le feu et on va écouter une comptine très brève, et ensuite on écoutera Olivier. D'abord c'est Jeanne qui chante ou qui dit
qui chante.
Qui chante.
Méo, méo, méo.
Eh bien, oh, quel accent. On écoute Jeanne.
Méo, 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 je m'attends, méo. Sau sau lam chẳng được mẹ yêu, khăn mặt đâu mà ngồi liếm mép rồi lại khóc meo meo. Meo 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 rửa mặt như mèo, sau sau lắm chẳng được mẹ yêu, khăn mặt đâu mà ngồi liếm mép rồi lại khóc meo meo.
Eh ben, c'est une belle surprise, parce que depuis le temps que Jeanne Varec me parle de ce travail, je suis très content de le découvrir, voilà. Et cette comptine, en deux mots, tu peux nous en dire quelques mots sur le contenu de cette comptine?
Tu fais ta toilette comme une toilette de chat. Ta maman ne t'aimera pas. Où sont tes serviettes? Tu te lèches les babines. Donc voilà, tu fais ta toilette de chat, ta maman ne t'aimera pas.
Merci Jeanne. Alors, un texte, si, avec une petite transition, un texte donc qui est écrit par Olivier Roy et qui est, à l'instant, qui va être dit par Olivier Roy, sur les situations imprévues, le voyage. Alors, quelques mots peut-être?
Oui. En fait, le film va être précédé par l'édition d'un livre qui s'appelle « Vietnam, mon amour », qui sera constitué d'à peu près 80 photographies que j'ai prises là-bas, et de 40 textes, et qui sont toutes, enfin, qui sont tous des textes que j'ai presque pris comme un instantané sur place, quoi. Voilà, donc l'écriture du bouquin est en cours, et ça, c'est un texte qui s'appelle Situations imprévues, et qui m'est inspiré par le fait qu'effectivement, un grand voyage est toujours ponctué par des choses qu'on n'attend pas. Il y a, au cours de tout grand voyage, des situations imprévues. Une semaine avant le départ, la tension monte, l'on s'inquiète. L'on vérifie les papiers, le contenu du sac, de la valise. L'on coche la liste du matériel. Inconsciemment, une sainte frayeur nous met en garde. Partir, est-ce bien raisonnable? Avons-nous tout prévu? Et si les circonstances nous embarquaient sous le signe de l'inconnu vers quelque aventure extravagante? L'aventure, pour ce rêve-là, pour le goûter sans le vivre, les agences de voyage nous vendent l'exotisme sans ses imprévus. Elles vantent les montagnes, la mer, le soleil. Elles peuvent l'extraordinaire, elles peuvent le dépaysement, mais elles ne peuvent l'aventure. Comme l'amour, l'aventure ne s'achète pas. Avant de partir pour la vivre, il faut accepter la vie et ce qu'elle offre de situations imprévues.
Traditionnelle du Vietnam, c'est une peut-être une première, je crois depuis tant d'années. Jeanne, tu vas peut-être nous dire le titre avec ton accent, je crois l'accent du Nord ou l'accent du Centre ou l'accent du Sud.
Oula. Bon, c'est des extraits de l'album où il y a du Kachu et du Quan Ho. Donc, c'est des chants Quan Ho, Bak Ning, c'est des chants alternés pour garçons et filles. C'est d'un ban, Kim Luan. Voilà.
Avec donc le label de l'UNESCO, c'est pas fréquent, c'est donc une reconnaissance de ce patrimoine musique et musicien du monde. Olivier, les auditeurs ne l'ont pas vu, mais tu as fait une petite tape sur l'épaule à Jeanne parce que tu voulais dire quelque chose. Eh bien, la parole est à toi. Une tape amicale, bien entendu.
Non, c'était pas pour cette raison, mais c'est pas grave. En fait. Ce projet Vietnam, mon amour, évidemment, s'inspire des gens et des situations, y compris de la situation historique du Vietnam. Et au Vietnam, il y a eu cette guerre épouvantable, guerre du Vietnam. Et durant cette guerre, les Américains ont très largement employé des défoliants, sur les gens pour les chasser, on pourrait dire un peu comme des rats, vous voyez, quand ils étaient dans les forêts. Et cet dioxyde couvrait la nature d'une couleur un peu ocre-orangée, et du coup, il l'appelait l'agent orange. Et ça m'a inspiré un texte que je dis et que je dédie à Trentonga, qui a engagé un grand procès contre ces firmes américaines qui ont fabriqué cet agent orange. Donc, orange. Couché sur le dos, la tête défoncée, son bras droit, son main s'agite. Orange. Dans son berceau, Tienne vient de naître. Il appelle sa maman. Elle vient en courant et l'embrasse. Orange. Fatiguée par l'accouchement, elle le prend dans ses bras. Pour l'apaiser, elle lui offre la tétée. Orange. Le petit apaisé, elle le prend dans ses bras, sa tête tout contre celle de son nouveau-né. Doucement, elle pleure. Orange. Accompagnant le médecin, le mari vient d'entrer. En silence, il va vers sa femme. Dans ses mains, des fleurs qu'il pose sur le lit. Orange. Le médecin approche. Calmement, gravement, il parle. Il ne sait si le petit pourra vivre. Orange. La mère éclate en sanglots. Le mari la prend dans ses bras. Lui aussi. Il pleure. Le médecin, en silence, s'en va. Orange.
Voilà, nous avons chanté, comme on dit en langage, dans le jargon de la radio, parce que voilà, nous avons un temps un petit peu limité, mais on a quand même entendu ce très bel instrument, très représentatif d'un art, on peut dire, séculaire, et peut-être millénaire, en tout cas séculaire, la sitar vietnamienne, avec cette transparence. Nous avons donc diffusé un titre qui vient du nord du Vietnam Et Jeanne va nous prononcer avec le bon accent. Est-ce qu'il y a le nom d'un instrumentiste peut-être ou d'un ensemble?
Oui, pour la sitar vietnamienne, c'est joué par Nguyen Thi Hai Phuong et Monsieur Chen Van Ke. Monsieur Chen Van Ke qui est assez, qui est très réputé. C'est un grand ethnomusicologue international. Et donc.
Eh bien voilà, c'est très bien. Alors on va justement spécifier qu'il s'agit, ça c'est pour nos auditeurs, parce qu'on peut retrouver normalement ce disque chez Okora Radio France, qui a créé des collections assez extraordinaires sur les musiques du monde, avec des livrets extrêmement bien faits, même bilingues. Et donc, eh bien, on peut se procurer donc Okora Radio France, c'est toujours disponible normalement, et on peut aller sur le site pour retrouver cet album. Vietnam, musique d'hier et d'aujourd'hui, Le Dan Tran, est-ce que c'est bien ça? Mais on va le faire dire, le faire prononcer par Jeanne. Qu'est-ce que tu vois sur la deuxième ligne?
Dan Tran.
Ah oui, c'est mieux quand même. Oh, c'est beaucoup mieux. Merci Jeanne, merci beaucoup. Encore un texte par deux et par Olivier Roy. Alors, il y a plusieurs textes, on a beaucoup de choix. Je vois un sous-titre, L'ami de la rizière, avec un sous-titre, Le mystère des rencontres.
Hein. Oui.
Ça m'intéresse beaucoup, ça nous intéresse beaucoup. On est obligé de faire une sélection par rapport au texte, on verra si nous avons le temps. Mais c'est un contexte dans lequel tu t'es trouvé, parce que tu as fait des rencontres, tu nous en as parlé un petit peu hors antenne. C'est bien de revenir sur ce que tu avais dit par rapport à l'accueil par les Vietnamiens, d'un monsieur qui pour eux est un Français, qu'ils ignorent que tu as des racines vietnamiennes, ils ignorent pourquoi tu viens, ils te prennent pour un touriste certainement. Comment ça se passe? Comment ça s'est passé?
Alors en fait, au Vietnam, c'est comme ici, maintenant tout le monde a un téléphone portable dans la poche, avec des traducteurs. Et donc en fait, il suffit de parler en français dans le traducteur pour que la personne ait en vietnamien, la traduction. Beaucoup ne parlent pas l'anglais, mais la langue employée maintenant là-bas, c'est très largement l'anglais. Le français est employé encore par quelques personnes qui ont plus de 80 ans et qui ont été à l'école française, en quelque sorte, au collège et au lycée français, en langue française là-bas. Et les rencontres se faisaient de cette manière, ou alors elles se font dans le silence, en fait. Et là, je vais vous dire un petit texte où la rencontre se fait absolument dans le silence. L'ami de la rizière. Au milieu de la rizière, nous avions tous les deux les pieds dans l'eau. Il arrivait de loin. Je le regardais à pas lents, à pas comptés. Il s'approchait. Caché par son chapeau de riz, la tête baissée, il passa devant moi. Sentant mon regard dans son dos, il s'arrêta, se retourna et releva la tête. Il était vieux. Je fis un pas vers lui, il en fit un vers moi. Bientôt nos mains s'étreignirent. Sans un mot, il sourit, et moi aussi je lui souriais. Sans un mot, il partit. Sans un mot, nous le savions, nous étions amis pour la vie.
Hồi ngày năm xưa, em còn bé tí teo. Nằm gần bên mẹ, em bé như con mèo. Hồi ngày năm nay, em còn khóc ý eo. Đòi mẹ mua bánh, bánh đâu bé nhé. Nhé, 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 bánh đâu bé nhé, nhé, nhé. Đòi mẹ mua bánh, bánh đâu bé nhé. Hồi ngày năm xưa, em còn bé tí teo. Nằm gần bên mẹ, em bé như con mèo. Hồi ngày năm nay, em còn khóc I eo doi me mu ben ben dau ben nye 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 ben dau ben nye 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 doi me mu ben ben dau ben nye.
Eh bien, c'est Jeanne, vraiment, voilà, je suis aussi très admirative et je découvre, parce que je sais que ce travail est en cours. Alors, Jeanne, tu vas. Tu projettes donc d'éditer quoi, un EP, 8 titres ou un album? Comment ça se passe là, avec ces comptines Non. Alors un EP, c'est moins de 10 titres, c'est ça, hein.
Je crois qu'il y aura 14 ou 15.
Ah, donc ça va faire un album là, oui. Avec des comptines. Alors ce sont les comptines que tu nous le disais tout à l'heure, entendues dans ton enfance, elles sont en plusieurs langues du monde. Et là, il y aura combien de comptines vietnamiennes, c'est en cours?
Je crois qu'il y aura 3 ou 4 comptines vietnamiennes, 1 ou 2 laotiennes, 1 allemande, 2 françaises, je ne me rappelle plus.
Est-ce qu'il y aura une comptine irlandaise ou écossaise? Parce que tu as un très bel accent, en tout cas anglais, je l'ai remarqué quand tu chantais du jazz, c'était assez remarquable. Est-ce que tu vas peut-être sur l'anglais, peut-être?
Oui, bon. Sur l'anglais, oui, bien sûr. Voilà. Oui, sur l'anglais, voilà. C'est
donc
vrai.
Donc c'est en préparation.
C'est en préparation.
Et il y a fort à parier que tu reviennes, bien sûr, pour qu'on écoute, bien sûr, le résultat de ce travail. Qu'est-ce que nous disait cette jolie comptine, là?
Là, à l'instant.
Oui, à l'instant.
Maman, j'étais tout petit quand couché près de maman. J'étais petit comme un chat. Je pleurais sans cesse. Enfin, il faut que je revoie.
Oui, ben voilà, tu reprends tranquillement. Nous sommes en direct.
Et je pleure, je veux que maman m'achète un gâteau, je pleure comme un petit chat, enfin, quelque chose comme ça.
Merci Jeanne, merci beaucoup. Hein. Voilà, tu reviendras évidemment quand ce disque sera fait, quand les 14 titres seront, comme on disait à l'époque, empexés, ou voilà, c'était les termes, quand tout sera en boîte, comme on dit. Alors, Olivier Roy, avant de revenir sur un texte, il est important de savoir, est-ce que tu as un plan pour ce futur documentaire, ou est-ce que c'est en train de se construire? Est-ce que c'est un peu tôt? Parce qu'il y a déjà le livre. Déjà, alors, le livre, il est paru?
Non, il n'est pas encore paru. Ah, il a été précédé par un livre qui s'appelle « Mille et une petites choses de la vie », qui sont des textes que j'ai écrits durant plus de 30 ans. Et comme j'ai une formation de cinéaste et de photographe, au fond, je l'ai ponctué de photographies que j'ai prises moi-même. Et ce bouquin va s'appeler Vietnam, mon amour. Et en fait, les textes et les images vont se renvoyer l'un l'autre, en fait, voyez, l'une l'autre. Avec, je dirais que le livre va se lire un peu comme on ouvre une boîte de chocolat. On en prend un, et puis demain, on en prendra un autre. Peut-être au café, vous voyez, ou en attendant les copains. Et donc, c'est pas un bouquin qu'on va lire tout d'une traite, non. Je préfère que ça soit comme un moment choisi. Tu le poses sur la table basse, tu prends un temps pour toi, t'en lis un, deux, pour le plaisir, pour la joie de la lecture, par simplicité. Voilà. C'est ça que je cherche à faire, des textes courts, mais qui nous parlent, et qui nous parlent de choses très présentes, en fait. Et là, j'avais envie de lire un texte, parce qu'il y a dans les campagnes au Vietnam un vrai problème au niveau de l'alcool, mais un problème très récurrent, où les paysans, les hommes, après un certain temps, en fait, se mettent à boire entre eux, en fait. À tel point que les autorités ont été obligées de prendre des décisions draconiennes concernant la conduite. Là-bas, c'est zéro alcool. Le moindre... voilà. Donc, par exemple, un chauffeur de taxi n'aura jamais, ou même n'importe qui, il prendra jamais une bière avant de prendre le volant, quoi. C'est complètement... C'est totalement interdit. Tellement il y a eu d'accidents à cause de ça là-bas.
Donc tu as un texte là sur ce...
Oui, c'est un texte où au fond les femmes souffrent énormément dans les campagnes de l'alcoolisme des maris. Parole d'une femme à son époux. Oh, mon cher époux, le temps file si vite. Voilà déjà 5 ans que nous sommes mariés. Depuis 5 ans déjà, nous partageons nos vies. Douce, patiente, je suis là pour tes envies. Pourtant, ce soir, avec les hommes, tu es allé. Oh, doux et tendre époux, le temps passe si vite. Depuis notre mariage, j'attends à la maison, pour toi et tes enfants, je fais cuire le riz. J'entends encore tes rires et tes jolies chansons. Est-il déjà si loin le temps de nos passions ? Oh, merveilleux époux, je te suis soumise. Tu le sais, fidèle, j'écoute tes raisons. Je te prie aujourd'hui de voir comme je suis mise. L'autre soir, titubant, tu tenais un flacon. Où est donc la robe que tu m'avais promise ? Oh, mon homme, mon époux, ce soir est un grand soir. 5 ans de mariage à vivre tous les jours. Les enfants sont couchés. Je me suis parfumé. Tu tardes à rentrer. Où passe ton amour? La chaleur de mes bras, l'aurais-tu oublié? Oh, toi, le père, l'époux, tes enfants te demandent en pleurant tous les soirs. Ils t'attendent sans fin. Ils grandissent sans te voir et du matin au soir, je leur chante gaiement pour cacher mon chagrin de te voir le soir si triste, si seul, si noir. Oh, mon unique amour, pour te sauver de ce trou, aujourd'hui je te quitte. L'âme en peine, je le fais. À Bouddha, j'adresse mes offrandes pour croire qu'il t'enivre de sagesse, que tu cesses de boire. Je n'ai qu'un seul espoir, mais ce vœu, tu le sais, je veux être ta femme et toi, mon fier époux.
Vol de l'aigrette. L'aigrette décrit des arabesques à travers champs. Ô ma belle, penses-tu à moi, penses-tu à moi? Moi je garde le souvenir de ton joli sourire. Ô ma belle, penses-tu à moi, penses-tu à moi? Kola. Konko, ko baila. La baila baitu te que fou fou baisa za kang dong ting ting tang tang ting ting xuyên tình rằng xuyên tình ơi rằng có nhớ nhớ hay chăng rằng có nhớ nhớ hay chăng ai về về có nhớ nhớ ta chăng ta về về ta nhớ nhớ hàm răng cô mỉm cười tình tình tang tang tình tình duyên tình rằng duyên tình ơi rằng có nhớ nhớ hay chăng rằng có nhớ là nhớ hay chăng.
Merci, cảm ơn.
Merci Jeanne. Jeanne Varette, alors, je vais épeler ton nom, W-A-H-R-H-E-I-T, c'est un nom de la Lorraine, bien sûr, et puis avec, bien sûr...
Et qui veut dire vérité.
Mais c'est magnifique.
Je ne peux rien, mais c'est comme ça.
C'est magnifique. Alors, merci Jeanne, beaucoup, beaucoup. Tu reviendras sur cette antenne pour la sortie du disque. Et Olivier Roy, alors je lisais le début de ce communiqué, le projet du film. Ce film, cette aventure où nous nous engageons, nous porte au Vietnam, au-delà du Mékong, aux rizières, aux terrasses du Nord. Il n'est pas un reportage, il est, au travers du regard de deux jeunes Vietnamiens, la recherche du sens profond de l'existence et la découverte de ce trésor que nous souhaitons tous au profond de nous-mêmes, la paix. Voilà, merci à toi Olivier Roy, merci beaucoup. On espère, alors il faut donner le nom de l'association vietnamienne, un site internet, oui. C'est bien parce que voilà, les auditeurs qui réécouteront l'émission pourront noter l'adresse.
Alors, l'association s'appelle Racines et Traditions Vietnam. J'ai moi-même un site internet qui s'appelle www.olivierroy.fr, tout simplement. Et c'est pour un projet qui s'appelle Vietnam, mon amour. Voilà, et pour l'édition d'un livre et le tournage d'un film.
Merci Olivier Roy, merci Jeanne Varette, merci Nicolas.
Merci.
Merci.
Tout de suite, avant de passer à nos morceaux en direct, le petit cadeau d'Evelyne et Jean-Marie.
Il était sorti d'une feuille de papier où il était écrit « Hélas !» Aussi loin que les plantes soupirent et se penchent, il a pris son essor, aussi libre que celui qui glisse, pour raconter un rêve biscornu. J'ai piqué un mot au hasard dans le dictionnaire qui me cria. Tu ne manques pas d'air. L'insecte tournoya un instant juste au-dessus de mon nez. Il était fabuleux comme une histoire sans tête et il riait à gorge déployée. Vous ne me croirez pas, mais cet insecte avait écrit le mot « hélas » simplement en lisant sur les lèvres d'un inconnu qui avait salué le printemps. C'est qu'à l'origine de cet hélas, ce drôle d'insecte, capable de griffonner son nom sur les feuilles d'arbres, il y eut un homme couché par terre qui rendit son dernier soupir en disant « Hélas !» Et ce jour-là, il n'y avait pas d'étoiles dans le ciel. Mais cet insecte sortit tout droit du cri du cœur de quelque inimaginable, éphémère hominidé, a tendance à s'orienter toujours là où les villes s'endorment, là où les murs sont nus, au-dessus de mains voyageuses, il s'empare de tous les regrets muets, regards désolés et princiers sur leurs souches d'ombre. Comme il fendrait une larme au soleil, son corps entier est une harpe. Ô souvenir, je vous ai trop bu, et je n'ose voir deux arbres qui se touchent, mais crois entendre quelques insectes, hélas, sur l'eau croupie d'un banc public, prendre son envol, et c'est heureux. Hélas, voltige encore au-dessus des nuées.
Surtout quand le vent d'octobre de ses doigts glacés punit mes cheveux, pris comme un crabe dans le soleil, je marche autour du feu et mon ombre portée est un crabe sur terre. Le long du bord de mer, j'écoute les oiseaux tapageurs et le corbeau qui pousse dans le bois sec de l'hiver. Mon cœur affairé qui tremble quand elle parle perd le sens syllabique et draine ce qu'elle dit. Enfermé, moi aussi, dans une tour de mots, je trace sur l'horizon qui marche comme les arbres de verbeux corps de femmes, et dans le parc les files d'enfants aux gestes d'étoiles. Certains me laissent faire avec des voyelles les êtres, d'autres avec les voix, les chaînes, ou avec les racines, te donner des nouvelles de maintes régions d'épines. Les uns me laissent faire avec le caquetage de l'eau derrière un pot de fougère. L'horloge qui jacasse me dit le mot de l'heure, la signification des nerfs vole sur le balancier, déclame le matin et dit le mauvais temps qui fait tourner le coq. Certains me laissent faire avec des signes, des prés, l'herbe éclatante qui me dit tout ce que je sais, pointe dans l'œil avec l'hiver véreux. Certains me laissent faire avec les péchés du corbeau. Certains me laissent faire avec les sortilèges de l'automne, les langues d'araignées et les collines sonores de galles. Certains me laissent faire quand le vent d'octobre punit la terre de ses points de rave, certains me laissent te faire avec les mots sans cœur. Le cœur est ponctionné, épelant dans le tourbillon du sang chimique, averti de la fureur qui monte le long du bord de mer. Écoute les voyelles sombres des oiseaux. Dylan Thomas. Merci.
Radio Libertaire 89,4 MHz, il est 16h30 et c'est l'heure de la Minute Camus. Bah oui, vous vous doutez bien que si Sophie est venue avec des textes, non pas qu'elle ait apporté son Albert Camus, puisque elle le connaît par cœur, l'étranger. Sophie, c'est à toi.
Je l'ai amené. Non, je vais pas commencer par Camus. Donc le thème entamé samedi dernier, c'était celui de nos mères. J'avais en effet lu un extrait de Vipère au poing d'Hervé Bazin, publié en 48. Et dans l'extrait d'aujourd'hui, donc tiré du même livre, Jean Rézeau dit Brasse Bouillon, et son fils aîné Ferdinand dit Freddy, attendent de rencontrer leur mère qu'ils ne connaissent pas. Ils ont été élevés par leur grand-mère qui vient de décéder, et leurs parents sont partis en Chine et vont venir vivre avec eux. Donc cette mère sera prénommée plus tard Folcoche par Freddy, du fait de son sadisme, c'est une contraction de folle et de cochonne. En l'occurrence, jamais Freddy ni Brasse Bouillon n'appelleront Folcoche maman, alors qu'il l'aurait bien voulu. Donc là, c'est le récit de l'attente de cette maman. Maman, bien que ce mot fût par certains de nos proches tout voilé de réticence, maman, parce que nos petits cousins le disaient avec l'air de sucer un berlingot, maman, parce que le proto-notaire et la tante Thérèse avaient presque la même manière de le prononcer en parlant de grand-mère, maman, malgré le « Madame, votre mère » terriblement lourd de Madame Ernestine. « Maman, quoi !» Ça nous chauffait les oreilles. « Pourquoi qu'elle écrit jamais ?» On dit « Pourquoi n'écrit-elle jamais ?» « Vous êtes injuste, Freddy. Madame, votre mère, vous a écrit à Noël. Et puis la Chine, c'est loin. » Elle n'avait pas écrit, Madame, notre mère. Il, je veux dire Monsieur et Madame Rézeau, ils avaient envoyé une carte classique, imprimée en anglais, qui disait « We wish you Merry Christmas. » Deux signatures. La première en pâte de mouche, Rézeau. Un chef de nom et d'armes ne met pas son prénom. La seconde en cunéiforme, Rézeau Puvignac. Tous deux magistralement soulignés. L'adresse avait été tapée à la machine, sans doute par Li Pa Hong, le secrétaire, que nous imaginions avec une si belle tresse dans le dos et qui avait sept langues dans la bouche pour se taire. La Chine, c'est loin. Je ne crois pas, même à cet âge, avoir admis que le cœur, cela peut être beaucoup plus loin que Shanghai. Maman. Madame Ladour, une voisine qui avait six enfants et qui ne connaissait rien de la situation, nous débrida l'imagination. Une maman, c'est encore bien mieux qu'une grand-mère. Le deuxième extrait, c'est une description de Madame Rézeau, donc de cette Folcoche par Freddy. Dans ce portrait de 13 lignes, transparaît toute la haine possible. Âgée à la même époque de 35 ans, Madame Mère avait 10 ans de moins que son mari et 2 cm de plus. Née Pluvignac, je vous le rappelle, de cette riche mais récente maison Pluvignac, elle était devenue totalement Rézeau et ne manquait pas d'allure. On m'a dit 100 fois qu'elle avait été belle. Je vous autorise à le croire, malgré ses grandes oreilles, ses cheveux secs, sa bouche serrée et ce bas de visage agressif qui faisait dire à Freddy, toujours fertile en mots, « Dès qu'elle ouvre la bouche, j'ai l'impression de recevoir un coup de pied au cul. C'est pas étonnant avec ce manteau en galoche. » Voilà. Alors, vous connaissez certainement ce que je vais lire. « Aujourd'hui, maman est morte. » Peut-être hier, je ne sais pas. Ça vous dit quelque chose, j'imagine. Donc, c'est l'incipit de l'étranger, hein, que j'adore, de Camus. Et pour continuer de parler de mère, donc je vais lire un extrait. L'étranger était paru en 42, hein, pour rappel. Et dans cette scène, Merceau, qui est décrite par lui, il est question entre autres de l'asile où sa mère vient de terminer sa vie. L'asile est à 2 km du village. J'ai fait le chemin à pied. J'ai voulu voir maman tout de suite. Mais le concierge m'a dit qu'il fallait que je rencontre le directeur. Comme il était occupé, j'ai attendu un peu. Pendant tout ce temps, le concierge a parlé et ensuite, j'ai vu le directeur, il m'a reçu dans son bureau. C'est un petit vieux, avec la Légion d'honneur. Il m'a regardé de ses yeux clairs, puis il m'a serré la main, qu'il a gardée si longtemps que je ne savais trop comment la retirer. Il a consulté un dossier et m'a dit « Madame Meursault est entrée ici il y a 3 ans. Vous étiez son seul soutien. » J'ai cru qu'il me reprochait quelque chose et j'ai commencé à lui expliquer, mais il m'a interrompu. « Vous n'avez pas à vous justifier, mon cher enfant. J'ai lu le dossier de votre mère. Vous ne pouviez subvenir à ses besoins. Il fallait une garde. Vos salaires sont modestes. Et tout compte fait, elle était plus heureuse ici. » J'ai dit « Oui, monsieur le directeur. » Il a ajouté « Vous savez, elle avait des amis, des gens de son âge. Elle pouvait partager avec eux des intérêts qui sont d'un autre temps. Vous êtes si jeune et elle devait s'ennuyer avec vous. » C'était vrai. Quand elle était à la maison, maman passait son temps à me suivre des yeux en silence. Dans les premiers jours où elle était à l'asile, elle pleurait, souvent. Mais c'était à cause de l'habitude. Au bout de quelques mois, elle aurait pleuré si on l'avait retirée de l'asile. Toujours à cause de l'habitude. C'est un peu pour cela que dans la dernière année, je n'y suis presque plus allée. Et aussi parce que cela me prenait mon dimanche, sans compter l'effort pour aller à l'autobus, prendre des tickets et faire 2 heures de route. Alors j'ai apporté aussi un autre livre de Delphine de Vigan qui s'appelle « Rien ne s'oppose à la nuit ». Je vais dire donc 2 extraits. Ici, la mère, elle est nommée maman. Ici, l'amour entre la fille et la mère est très présent. Delphine de Vigan a écrit ce livre en hommage à sa mère qui s'appelait Lucille, qui s'est suicidée. Et après ce suicide, elle a enquêté sur ce personnage complexe, qui était malade et lumineux, qui était sa mère, et elle a écrit ce livre. Dans le premier extrait que j'ai choisi, Delphine donc, n'a plus de nouvelles de sa mère et s'inquiète. C'était un mercredi matin. J'ai pris une douche et je me suis habillée. J'ai laissé mon fils devant la télévision. Je lui ai dit « Grand-mère, Lucille ne répond pas au téléphone, je fais l'aller-retour chez elle pour vérifier que tout va bien. » Préposée à l'arrosage de ses plantes, lorsqu'elle s'absentait, j'avais la clé de Lucille depuis longtemps. Dans le métro, j'ai pensé qu'il était tôt et que j'étais seule. Je me suis dit exactement ça. Ta mère ne répond pas au téléphone et tu y vas seule. J'ai pensé que Lucille avait rechuté, que j'allais la retrouver comme ma sœur l'avait retrouvée chez elle quelques années plus tôt, dans un état de grande agitation, qu'il faudrait la convaincre d'aller à l'hôpital, qu'elle résisterait peut-être, qu'il faudrait appeler les pompiers. J'ai pensé qu'être adulte ne prémunissait pas de la peine vers laquelle j'avançais, que ce n'était pas plus facile qu'avant, quand nous étions enfants, qu'on avait beau grandir et faire son chemin et construire sa vie et sa propre famille, il n'y avait rien à faire. On venait de là, de cette femme. Sa douleur ne nous serait jamais étrangère. Avant de partir, j'avais laissé un dernier message sur un ton de maîtresse d'école. « Bon, maman, maintenant ça suffit. Manon et moi, on s'inquiète. Je vais venir chez toi. » En sortant du métro, j'ai pris la Sente des Dorés, cette rue droite qui monte vers sa résidence. J'ai traversé la place. L'air était humide. Le ciel privé de lumière. J'ai sonné, j'ai attendu un peu avant de glisser la clé dans la serrure. Je l'ai vue tout de suite. Allongée dans son lit, la porte de sa chambre était ouverte. Lucille me tournait le dos. J'ai appelé. « Maman, maman !» Dans le silence, je crois que je suis restée là, quelques secondes, dans l'attente de sa réponse. Et puis je me suis avancée dans le couloir, je me suis dit qu'elle dormait. J'ai rassemblé toutes mes forces pour me dire qu'elle dormait. Je suis entrée dans sa chambre. Les rideaux étaient tirés. La radio était allumée. C'était un signe de vie. Il y avait de la vie quelque part. Elle se couchait souvent comme ça, l'oreille contre le transistor. Je me suis approchée, je me suis accroupie. Je l'ai secouée, doucement, puis plus fort, j'ai répété « Maman, maman !» Voilà. Et le dernier extrait que je vais vous lire aujourd'hui, c'est l'ouverture du livre, le même livre. Donc en fait, dans ce livre, il y a pas mal de flashbacks. Là, c'est l'ouverture et Delphine donc, a découvert que sa mère s'était suicidée. C'est la description de ta découverte. Je suis désolée, c'est très gay aujourd'hui. Ma mère était bleue, d'un bleu pâle mêlé de cendres. Les mains étrangement plus foncées que le visage, lorsque je l'ai trouvée chez elle, ce matin de janvier. Les mains comme tachées d'encre au pli des phalanges. Ma mère était morte depuis plusieurs jours. J'ignore combien de secondes, voire de minutes, il m'a fallu pour le comprendre, malgré l'évidence de la situation. Ma mère était allongée sur son lit et ne répondait à aucune sollicitation. Un temps très long, maladroit et fébrile, jusqu'au cri qui est sorti de mes poumons, comme après plusieurs minutes d'apnée. Encore aujourd'hui, plus de 2 ans après, cela reste pour moi un mystère. Par quel mécanisme mon cerveau a-t-il pu tenir si loin de lui la perception du corps de ma mère et surtout de son odeur? Comment a-t-il pu mettre tant de temps à accepter l'information qui gisait devant lui? Ce n'est pas la seule interrogation que sa mort m'a laissée. Et j'ai terminé avec mon thème sur les mamans.
Et si vous avez eu l'impression d'avoir la petite larme à l'œil en entendant la sélection des textes de Sophie, vous pouvez toujours prétexter que non, c'est pas la larme à l'œil, c'est la petite trompette de Cat Anderson avec les Français de moustache interprétant Maman Papa de Georges Brassens. Ce Radio Libertaire 89,4 MHz, il est 16h44, dans un bon quart d'heure, ça sera Bulle Noire avec aujourd'hui un fada complet, un récurrent de Bulle Noire, c'est Didier Serplet. C'est l'homme qui réussit à faire une histoire complète à partir d'un lapin qu'il a recueilli rue de Rivoli devant chez lui, qui réussit à faire un livre entier avec les soupirails de Venise, avec les plaques d'égout de Paris, ou avec tous les lions qu'on trouve dans Paris sur les façades des monuments. Et à mon avis, si un pigeon vient sur votre balcon, il arrivera à vous passionner et en faire toute une histoire. Dans l'immédiat maintenant, eh bien, Michel, Ariel, Elsa, c'est qui ?
Michel.
Michel.
Alors, je vais vous parler du problème du logement d'hiver, puisque Alexandre Vialat s'en parlait il y a quelques années maintenant. Le problème du logement d'hiver. Le problème du logement d'hiver date de la plus haute antiquité. Les patriarches l'avaient résolu par le moyen de la tente en peau de bouc. Un feu de brindilles et de crottes de chèvre les réunissait sur le seuil. La nuit, d'Orient brillait de mille feux au-dessus de leur tête. Ils discutaient astronomie, monothéisme et fécondité de la brebis. De nos jours, on vante l'HLM. Elle est pratique à cause du vide ordure. Mais où se trouve dans une HLM la place de la piscine et celle des écuries, du potager, de la chapelle, du tennis? Où réunir devant un grand feu de bois les ménestrels errants, les trouvères de passage? Où sont la cave, le grenier, les persiennes, les oubliettes, le placard du fantôme? Où loger les chevaux, les lapins? Songez qu'au temps des châteaux forts, on pouvait chevaucher tout un jour sans sortir de la propriété. En même temps, quelle économie! Rien n'empêchait d'élever des poules. Un invité survenait, à l'improviste, on pêchait une truite dans la rivière, on tuait un sanglier dans la forêt prochaine, elle faisait partie du lotissement. Et il restait encore de la place pour les lions, les vipères, les ours. Charles V en avait une ménagerie complète. En plein Paris, le château résout tous les problèmes. Par exemple, le bruit. De château à château, on n'entendait pas la chasse d'eau. Rien n'empêchait la petite voisine de faire ses gammes. Et qu'on n'objecte pas qu'il faudrait être riche. La richesse n'est pas à redouter. Mieux vaut être riche, mais bien logé, que pauvre, mais dans un taudis. Un pauvre est bien plus malheureux parmi des murs suintants, dans une maison qui croule, qu'un riche dans un palais splendide. Autre temps, autre mœurs. Puisqu'on ne veut plus de châteaux, qu'on bâtisse des HLM. La superstition du béton a complètement faussé les choses. Mais qu'on ne se plaigne plus du logement. Le château va si bien à l'homme qu'Alexandre Dumas, un jour, en commanda deux à la fois. « Deux ?» répondit l'architecte. « Non, monsieur Dumas, un château. »« J'ai dit deux, » répondit Dumas. « Mais ce sera ruineux, » répondit l'architecte. « Je l'espère bien, » répondit Dumas. Et on lui fit ses deux châteaux. Il y vint d'ailleurs très rarement, mais il y logea un vautour, Félix, je crois, ou Hippolyte, d'un grand pittoresque local. Et voilà bien ce qui manque au logement de notre époque. Il n'y a pas la place du vautour.
Merci.
Alexandre Vialat, vous applaudissez.
Daniel Gélin, dans ses poèmes à dire, a choisi du Jean Cocteau. Je n'aime pas dormir quand ta figure habite la nuit contre mon cou, car je pense à la mort laquelle vient si vite nous endormir beaucoup. Je mourrai, tu vivras, et c'est ce qui m'éveille. Est-il une autre peur? Un jour, ne plus entendre auprès de mon oreille ton haleine et ton cœur. Quoi? Ce timide oiseau, replié par le songe, déserterait son nid d'où notre corps à deux têtes s'allonge par quatre pieds finis. Puisse durer toujours une si grande joie qui cesse le matin et dont l'ange chargé de construire ma voix allège mon destin. Léger,
Je suis léger sous cette tête lourde qui semble de mon bloc et reste en mon abri, muette, aveugle, sourde, malgré le chant du coq. Cette tête coupée, allée en d'autres mondes où règne une autre loi, plongeant dans le sommeil des racines profondes, loin de moi, près de moi. Ah, je voudrais, gardons ton profil sur ma gorge, par ta bouche qui dort, entendre de tes seins la délicate forge souffler jusqu'à ma mort. Donc, ce poème est extrait du recueil Plein Chant, édition Gallimard. Alors, Daniel Gélin a sélectionné Comrade de Philippe Soupeau. Petit moi, petite fumée, et l'oubli en robe de laine, une porte s'ouvre tendrement près du mur où naît le vent, près du jardin bienheureux où les saints et les anges ont peur des saisons. Les allées n'ont pas de nom, ce sont les heures ou les années. Je me promène lentement, vêtue d'un patelot mastique et coiffée d'un chapeau de paille noire. Je ne me souviens pas s'il fait beau. Je marche en fumant et je fume en marchant à pas lents. Quelquefois je me dis, il est temps de s'arrêter, et je continue à marcher. Je me dis, il faut prendre l'air, il faut regarder les nuages et respirer à plein poumon. Il faut voir voler les mouches et faire une promenade de santé. Il ne faut pas t'enfumer, je me dis aussi. Calculons, je me dis encore, j'ai mal à la tête. Ma vie est une goutte d'eau sous ma paupière et je n'ai plus 20 ans. Continuons. Les chansons sont des chansons et les jours des jours. Je n'ai plus aucun respect pour moi, mais je vois des voyous qui fument les mêmes cigarettes que moi et qui sont aussi bêtes que moi. Je suis bien content sans vraiment savoir pourquoi. Il ne suffit pas de parler du soleil, des étoiles, de la mer et des fleuves, du sang, des yeux, des mains. Il est nécessaire bien souvent de parler d'autre chose. On sait qu'il y a de très beaux pays, de très beaux hommes et non moins charmantes femmes. Mais tout cela n'est vraiment pas suffisant. Le vide étourdissant qui sonne et qui aboie fait pencher la tête. On regarde et on voit encore beaucoup d'autres choses qui sont toujours les mêmes, innombrables, identiques. Et là-bas, simplement, quelqu'un passe, simple comme bonjour, et tout recommence encore une fois. Je lis dans les astres la bonne volonté de mes amis, dans un fleuve, j'aime une main, j'écoute les fleurs chanter, il y a des adieux, des oiseaux, un cri tombe comme un fruit. Mon Dieu, mon Dieu, je serai donc toujours le même, la tête dans les mains et les mains dans la tête. Donc ce poème est extrait du recueil Poésie complète, édition GLM.
Merci. Texte de Patrick Denis, tiré de son livre « Comme la truite sous la pierre », édition L'Harmattan. L'enfant n'a pas jailli du ventre de sa mère. Il s'est fait désirer. La sueur inondait le visage de pierre de la femme couchée. Arc-boutée, tendue sur ses menus biceps, elle toussait trop fort. À peine l'accoucheur évoquait les forceps qu'il était déjà mort. 5 juillet 1983. Le lièvre roux qui courait dans les phares de l'automobile de Jacques Bertin n'était qu'un ultime appel au maquis. C'est à genoux que j'ai connu, hagard, mes deux bras tremblants,
ouvert les mains sur le petit corps déjà refroidi. 5 juillet 83. Qui suis-je à trimballer mes risibles errances au musée de partout? Est-ce pour la beauté sauvage de la danse ou pour le cri du fou? La peinture ne m'évoque rien de transcendantal. C'est tout, car tous mes paysages, j'habite le tableau du naïf au mental, en cherchant le passage, la faille qui fera bon sang que je voyage, la route des couleurs, pour mon petit cerveau boulimique d'images, la peinture est ailleurs. Toujours écrit le 5 juillet 83. Miracle d'aubépine au printemps retrouvé, le soleil tamisé cogne dans ma poitrine. Je change l'eau des fleurs, remplace les épines qui me font avancer en me griffant le cœur. À peine le linchal des rats me libère que je suis ivre de la très douce douceur, de la douce chaleur qui me monte à la tête. La radio donne l'heure, je subis les infos en buvant une bière. Mécanique vision transcendantale, le sordide, l'alcool prolonge l'amour comme l'eau de Seltz en achevant les rêves. Deux pieds dans le réel, long drink, dans un fauteuil balançant sur le vide. J'envahis le matin, comme en littérature, mes mots incohérents parlent aux pages blanches. L'habitude d'écrire efface les dimanches, comme des graffitis noyés sous la peinture. Amoureux débouté, poète des ordures, ma mère et Dieu m'ont fait le devenir lucide. Malgré la rime riche, je rate mes suicides, me relisant sans cesse à grands coups de rature. Écrit en juillet 83. Et juste un tout petit dernier. La rime se démode aux confins du langage. Je suis rimailleur fou d'amour pour les mots de passage qui fuient. 6 juillet 1983. Patrick Denis.
Pour accompagner sur la fin cette émission en petit fond sonore, vous avez eu droit à un extrait d'un des concerts de Kia Tabassian, un musicien canadien ou québécois, je ne sais plus, qui s'amuse à mélanger Jean-Sébastien Bach et Omar Khayyam et qui, sur certains morceaux, fait intervenir des musiciens d'Afrique, toutes sortes de petites choses comme ça. Allez-y, cherchez Kia Tabassian, T-A-B-A-2-S-I-A-N. Radio Libertaire 89,4 MHz. On récapitule qui étaient nos invités aujourd'hui et on annonce que la prochaine émission, ça sera avec Moa, donc c'est un sommaire totalement aléatoire pour la prochaine fois. Laurent,
au revoir, à très bientôt.
Au revoir, à bientôt.
Sophie,
À bientôt, je reviens dans 2 semaines.
Chers amis, bonne soirée.
Bonne fête. De Noël et de Nouvel An d'avance, vu que nous reviendrons
en janvier. 2024. En 2024, peut-être plus chevelu, plus barbu. On ne sait pas ce que va donner la semence.
Plus barbu, plus chevelu, ça va être difficile.
Un peu plus blanchi, ça c'est sûr.
Nicolas, à bientôt. À bientôt. Thank you.
Sur 89.4.
Histoire de tombe sans parole. C'était il y a longtemps, en un temps révolu, aujourd'hui disparu à tout jamais. C'était il y a un demi-siècle déjà, une époque lointaine. En mai 1974, je fêtais mes 18 ans. Je vivais dans un petit village de province et habitais, plus précisément, dans l'école primaire de Lignières-Sonneville, en Charente, où mes parents étaient instituteurs depuis l'année 1949. Comme j'entrais juste